Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Henrard. Voici la lecture intégrale du texte numéro 6 de la leçon du 7 avril 2020. Global par essence, l'urgence écologique peine à trouver un écho dans un système politique gouverné par le court terme. Peut-on amener les citoyens à abandonner d'eux-mêmes un mode de vie suicidaire ou faut-il les y obliger pour la survie de tous ? Il faut accepter que la liberté s'arrête là où commence la planète. Avant d'imaginer les contours d'une tyrannie bienveillante pour l'écologie, des intellectuels ont depuis longtemps identifié les points faibles de la démocratie représentative. Sa temporalité. Les élus sont assignés au court terme du fait des mandats électoraux, alors que la question environnementale impose de penser sur le temps long. Sa géographie. Elle prend forme dans l'État-nation, quand la crise écologique est globale. Mais aussi et surtout son principe fondateur. Les individus confient leur liberté politique à des représentants et jouissent ainsi d'une autre forme de liberté individuelle. Or, il y a désormais une contradiction entre cette conception, qui permet à chacun de produire et consommer le plus possible, et la sauvegarde de ces nouveaux biens publics que sont la stabilité du climat ou l'intégrité des services écologiques, écrivent Dominique Bourg et Kerry Whiteside dans leur essai « Vers une démocratie écologique », édition du Seuil en 2010. Tyrannie bienveillante. La démocratie moderne, fondée dans un contexte de progrès technologique, s'inscrit dans une vision du monde toujours extensible. Le philosophe Thomas Schauder abonde. Le libéralisme politique et économique nous a confortés dans l'idée que la liberté était la valeur cardinale et qu'elle devait gagner toujours plus de terrain, que l'État devait la préserver et non la restreindre. Mais cette absence de limite vient se heurter à la limite des ressources. Une vérité fondamentale vient brutalement se rappeler à nous. Un monde sans contraintes n'existe pas. Comment alors changer de logiciel intellectuel ? Comment faire en sorte que les citoyens renoncent à une part de leur liberté individuelle qui, à force de buter contre la finitude du monde, le fera imploser? Pour certains, il faut passer par la contrainte. L'idée naît dans les années 70. Le politologue américain William Ophuls plaide, par exemple, pour une prise de pouvoir par des écologistes rois. Hans Jonas, philosophe, père du principe de précaution, évoque également en 1979, dans le principe de responsabilité, l'hypothèse d'une tyrannie bienveillante, bien informée et animée par la juste compréhension des choses. Si les hommes n'arrivent pas à s'imposer d'eux-mêmes la modération nécessaire à leur survie. 40 ans plus tard, nous ne pouvons que constater que cela n'a rien d'évident. Dans « Dictature verte », l'écologue Michel Tarrier imagine une écocratie, pas arbitraire mais coercitive. Dans le domaine des transports, par exemple, il préconise la restriction du trafic aérien, l'instauration d'un péage dans les centres-villes ou encore, dans certains cas, l'obligation du covoiturage. Reste à savoir qui dirigerait ce régime. Des intellectuels? Des scientifiques? L'élite éclairée est elle-même bloquée dans le système, répond Agnès Sinaï, cofondatrice de l'Institut Momentum. Quand bien même leurs intentions seraient louables, ces tyrans bienveillants seraient-ils incorruptibles? Selon l'historienne des sciences et de l'environnement Valérie Chanzigo, interrogée par Libération, c'est une idée qui est déconnectée de l'enseignement de l'histoire. Attenter aux libertés au nom d'un intérêt supérieur, c'est le modèle de tous les régimes autoritaires qui finissent toujours par privilégier une classe. Hans Jonas ne disait pas autre chose. 13 ans après le principe de responsabilité, interrogé sur la possibilité d'une sorte de dictature économique éclairée au sein de laquelle les philosophes seraient rois, ainsi que l'exigent de nombreux adeptes convaincus de l'environnement, il répondait « On peut esquisser dans l'abstrait un projet de dictature en vue de sauver l'humanité. » Mais comment se représenter qu'une élite effectivement altruiste parvienne au pouvoir, qu'elle demeure altruiste et que son désintéressement soit également reconnu? Il s'agit là d'une sorte d'utopie qui ne peut pas se traduire dans la réalité. Il jugeait pour autant le renoncement à la liberté individuelle inéluctable. Sa dictature verte n'était donc pas un horizon souhaitable, mais plutôt un avertissement, destiné à convaincre l'individu de renoncer de lui-même à une part de sa liberté. Comment alors amener les citoyens à y consentir ? Par plus de démocratie, répondent de nombreux écologistes. Interrogé par Libération, le philosophe Dominique Bourg explique « On ne peut plus laisser à chaque individu le choix de ses modes de vie. Le seul moyen de l'accepter, c'est une démocratie plus directe. Quand ça touche une chose aussi fondamentale, il faut être d'accord sur l'objectif. Que chacun dise oui ou non. C'est ça, une démocratie écologique. La dictature verte passerait ainsi par un référendum. Mais pour avoir l'assentiment des citoyens, encore faut-il qu'ils soient éclairés. Ce qui est embêtant avec l'écologie, c'est que ça demande des citoyens conscients, intelligents. Le péril environnemental est tel qu'il nous dépasse, nous submerge. Nous savons, sans avoir vraiment intégré, sans pouvoir envisager. C'est trop gros, ça sature notre façon de penser. L'idée de la fin de la civilisation est sidérante, explique le chercheur Luc Semal. Plus direct, la démocratie écologique serait donc aussi plus délibérative. On ne peut pas se contenter d'un référendum, juge Agnès Sinaï. Pourquoi pas instaurer des conventions de citoyens tirés au sort, mais représentatifs de la population et les former aux différents enjeux ? Il faudrait ensuite que leurs décisions soient contraignantes. C'est ce qu'on appelle le consentement éclairé. Les gens seraient capables de renoncer à certaines choses s'ils étaient formés et s'ils avaient un sentiment de justice. C'est l'autre pilier de cette démocratie renouvelée. L'exemplarité est épuisante pour l'individu quand il y a autour de lui une débauche de consommation, juge Luc Semal. En situation de pénurie ou de tension sur les ressources, le rationnement est assez bien accepté du moment qu'il est juste. Une société peut choisir la sobriété s'il y a une forme de partage équitable des efforts. On est sur un raisonnement assez proche de ce que l'on dit pour l'impôt. Il y a une réduction du consentement quand on considère qu'il est injuste. Valérie Chanzigaud ajoute « Ce n'est pas la liberté individuelle qui aboutit à la dégradation de l'environnement. C'est la liberté de certains individus. Une démocratie totalement inégalitaire en est-elle vraiment une ? Ce ne serait donc pas tant le régime qu'il faudrait changer que l'idéologie capitaliste qui l'anime. Les gouvernements autoritaires de ce monde sont d'ailleurs rarement un modèle en matière d'écologie, voire sont clairement climato-sceptiques, comme l'analyse l'historien Jean-Baptiste Fressoz, qui n'hésite pas à parler de carbofascisme. Fin de la lecture intégrale du texte 6, je vous remercie de votre attention.